أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et bénédiction sur le noble. De ses créatures, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sur sa sainte famille, ses vertueux compagnons et ceux ou celles qui suivront sa voie jusqu'au jour de la résurrection, que Dieu nous aide. Qu'il fasse de nous des musulmans vertueux qui nous guident sans cesse sur le droit chemin. Alhamdulillah, nous sommes en fait tout à fait heureux aujourd'hui d'être avec vous afin de pouvoir parcourir, n'est-ce pas, le coup intitulé, n'est-ce pas, l'éthique islamique qu'on appelle al-akhlaq al-islami. Nous allons, en fait, dans le cours, comme vous le savez, c'est en fait un cours qui traite la question, n'est-ce pas, de l'éthique islamique. Nous allons d'abord entreprendre ce cours par une introduction. En fait, je donne d'abord le plan de notre cours. Une toute petite introduction. Après cela, nous allons essayer de vous donner en fait les notions générales, c'est-à-dire parlant de la terminologie même de l'éthique qu'on appelle al-akhlaq. Après quoi, nous allons essayer de parler des hadiths traitant la question de l'akhlaq, c'est-à-dire comme nous avons deux sortes d'éthiques. Il y a les éthiques positives et les éthiques négatives, positives et négatives. Nous allons essayer de donner les hadiths qui traitent cela. Et après cela, nous allons, n'est-ce pas, conclure notre cours de ce jour. D'entrée de jeu, lorsque nous nous référons au dictionnaire pour essayer de savoir la définition de l'akhlaq, on nous donne un sens. Quand on vient également dans la compréhension technique, nous avons également des explications à donner. Mais bien avant cela, comme il était, n'est-ce pas, dit dans le plan, d'abord l'introduction. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le créateur de l'univers, lorsqu'il créa l'être humain, et lui a assigné la terre comme un lieu où celui-ci devrait, n'est-ce pas, habiter. Alors, lorsque Dieu, le Créateur, nous a créés et nous a envoyés, n'est-ce pas, sur terre, sûrement, il nous a donné des obligations. Il nous a donné des obligations, n'est-ce pas, à suivre. Et nous a promis que si nous attelons à respecter ces obligations, si nous attelons à s'en éloigner des interdits, il va nous assigner, n'est-ce pas, le paradis. Par contre, n'est-ce pas, c'est l'enfer qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en éloigne de l'enfer. Donc, l'être humain a le devoir de savoir qui il est. Connaître d'abord sa propre personne. C'est dans ce sens que on nous dit que la première philosophie est que l'être humain puisse savoir sa propre personne. Car le fait de se savoir soi-même t'amènera à connaître, n'est-ce pas, ton Créateur. C'est dans ce sens qu'il a dit ceci: Man arafa nafsa, faqad arafa rabba. Celui qui connaît sa propre personne connaît en fait son Seigneur. Donc, celui qui s'ignore, ignore, n'est-ce pas, son Seigneur. Voilà pourquoi, même dans les versets coraniques, Dieu dit qu'ils ont oublié Dieu et Dieu les a fait oublier leurs propres personnes. Ils ont oublié Dieu, ils ont ignoré Dieu et Dieu les a fait oublier, n'est-ce pas, leur propre personne. Donc, pour que l'être humain puisse connaître son Dieu, il faut se connaître soi-même. C'est dans ce sens que nous constaterons que les enseignements islamiques que les prophètes sont venus, n'est-ce pas, nous enseigner, nous pouvons les subdiviser en trois parties. C'est-à-dire, premièrement, il y a ce qu'on appelle al-aqaïd, qui est en fait la croyance. Al-aqida, qui est en fait la croyance, qui est au fait au sommet. Et concernant la question d'al-aqaïd, là-bas, il n'y a pas de suivisme, comme on le dit dans notre compréhension de fiqh, que il n'y a pas de taqlid, de suivisme. On ne suit pas qui que ce soit dans la question de al-aqaïd. Ce sont des choses que l'être humain, de par sa raison, de par ses propres recherches, qui devraient, n'est-ce pas, aboutir à cela. N'empêche que on pose des questions, on essaye, mais il faut contempler, n'est-ce pas, le ciel. Il faut contempler, n'est-ce pas, ta propre personne pour en retirer, n'est-ce pas, cette croyance-là. Donc, on ne dit pas que je crois en Dieu parce que Dieu a inscrit dans le Saint-Coran que Dieu croit en lui. On ne dit pas que je crois en prophète parce qu'il m'a dit qu'il est prophète, donc je dois forcément, n'est-ce pas, croire en lui. Mais je devrais, de par ma raison, essayer de savoir quelles sont les preuves qui prouvent, n'est-ce pas, l'existence d'abord de Dieu et l'existence, n'est-ce pas, du prophète. Alors, lorsque nous allons croire à l'existence de Dieu, croire avec des preuves évidemment, pas du suivisme, nous allons croire également à l'existence, n'est-ce pas, d'un prophète, il va, n'est-ce pas, en ressortir des éléments qu'on devrait, n'est-ce pas, s'adapter à cela. Donc, il y a au-delà la croyance qu'on appelle l'aqaïd, que l'être humain, avec, n'est-ce pas, sa propre raison, avec, n'est-ce pas, sa réflexion, avec, n'est-ce pas, les preuves rationnelles qui devraient, n'est-ce pas, atteindre cela. Alors, une fois atteint, et crie, n'est-ce pas, au prophète, et croire également au jour de la résurrection. Il va, n'est-ce pas, en découler, n'est-ce pas, des règles que l'être humain il faut suivre. Donc, on ressort par là que lorsque nous croyons en l'existence de Dieu, en l'existence du prophète, en l'existence, n'est-ce pas, du jour de la résurrection, qui est en fait les principes fondamentaux de l'islam, va découler des éléments. Entre autres, le fait de avoir, n'est-ce pas, un fiqh à suivre, c'est-à-dire la jurisprudence. Comme vous le savez, la jurisprudence, ce n'est pas quelque chose que l'être humain, de par lui-même, essaie de créer, en fait. Parce que là, cela va au-delà, n'est-ce pas, de ton obligation. Tu n'es pas demander toi-même de te créer, n'est-ce pas, un fiqh. Mais c'est à la lumière du Saint-Coran et des hadiths du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que l'être humain devrait essayer d'étudier et faire ressortir, n'est-ce pas, des règles qu'on appelle al-istinbat. Déduire, n'est-ce pas, les règles sur la base, n'est-ce pas, du Coran, de eux, de la Sunna. Et, n'est-ce pas, suivre. Donc, il y a le fiqh qui rentre, n'est-ce pas, en ligne de compte. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle al-akhlaq, l'éthique. C'est-à-dire tes relations avec, n'est-ce pas, ton prochain. Les relations que l'être humain devrait en avoir entre lui et son époux ou son épouse, entre lui et ses enfants, entre lui et ses profs, entre lui et ses parents, entre lui et, n'est-ce pas, ses amis. Quel rapport l'être humain devrait en avoir avec ces personnes? Donc, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, al-akhlaq. Donc, ici, comme introduction, les enseignements islamiques, en grand ou de manière grosso modo, nous avons d'abord les croyances qu'on appelle al-aqaïd, nous avons le fiqh et la jurisprudence, et nous avons ce qu'on appelle al-akhlaq, l'éthique, qui est en fait l'objet, n'est-ce pas, de notre cours durant, n'est-ce pas, ces émissions. Alors, dans le dictionnaire, lorsque nous essayons de se référer au dictionnaire pour voir qu'est-ce que l'éthique, n'est-ce pas, voudrait dire, d'abord le dictionnaire français, et après nous allons partir maintenant chez les Arabes et voir qu'est-ce qu'ils disent. Dans le dictionnaire, voilà en fait ce qu'on dit dans Encarta. Lorsque vous partez dans Encarta, vous essayez de voir le mot éthique, qu'est-ce que cela signifie. On nous dit éthique qui met en jeu les principes de la conduite humaine à respecter. C'est-à-dire, dans l'éthique, ce qu'on apprend, c'est les principes qui met en jeu les principes de la conduite humaine. C'est-à-dire, la conduite humaine face, n'est-ce pas, à ses semblables devrait être régie, n'est-ce pas, par des règles et par, n'est-ce pas, des conditions bien données. Donc, c'est l'éthique qui essaye de élaborer, n'est-ce pas, ces principes-là afin que l'être humain, en suivant cela, puisse atteindre, n'est-ce pas, la perfection. De l'autre côté encore, on nous dit idée des principes de la conduite humaine à respecter, exemple, synonyme moral. On dit telle personne est de bonne moralité ou telle personne est de mauvaise moralité. Maintenant, dans le même encart, on nous dit en philosophie, l'éthique voudrait dire l'étude des principes de la conduite humaine à respecter. Étude des principes de la conduite humaine à respecter. Voilà en fait ce qui on nous dit concernant, n'est-ce pas, al-akhlaq. Maintenant, lorsque nous venons dans la terminologie arabe, essayez de voir le mot éthique. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Les Arabes nous disent que nous avons deux terminologies qu'on appelle al-khulq et al-khalq. Le mot akhlaq vient du mot khulq. C'est le pluriel du mot khulq qui est en fait le même éthique. Khalq, c'est la manière dont l'être humain a été composé. Donc ça vient du mot khalaqa qui veut dire, n'est-ce pas, créer. Donc khalaqa qui veut dire créer, khulq qui veut dire comportement. Alors, donc, nous constatons que quand on parle de khulq, cela voudrait dire quoi? Le comportement de l'être humain. C'est-à-dire, c'est l'aspect interne de l'être humain que cela met, n'est-ce pas, en évidence. Mais lorsque nous parlons de al-khalq, c'est l'aspect physique. Donc, la composition physique qui est mise en évidence. Et lorsque nous parlons de al-khulq, comment on appelle là, le singulier de al-akhlaq, voudrait en fait parler de l'aspect intérieur, n'est-ce pas, de l'être humain. Comme vous le savez, dans la conception islamique ou chez les croyants, L'être humain a été créé, n'est-ce pas, à base de deux éléments essentiels. Le premier qu'on appelle le corps, et le corps qui tire sa source, n'est-ce pas, de l'argile. Voilà pourquoi on dit l'être humain vient de l'argile. Et en plus de celui à ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. On a fait fihi min rohi. Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque lui a créé Adam, il a injecté, n'est-ce pas, en lui, sa souffle de vie. Donc, injecter le souffle à Adam alayhi salam pour lui donner, n'est-ce pas, la vie. Donc, il ressort ici que l'être humain a été créé à base de deux éléments essentiels, le corps qui est, n'est-ce pas, argile, et, n'est-ce pas, l'âme. Donc, nous, dans notre conception religieuse, l'être humain n'est pas seulement l'argile. De fait, de telle sorte que nous disons que lorsque l'être humain périt, c'est fini, il n'y a pas de résurrection ni quoi que ce soit. Nous disons oui, il y a une résurrection, et la résurrection ne concerne pas, n'est-ce pas, le corps humain, mais ça concerne, n'est-ce pas, l'âme. Pour ceux qui disent que le corps est n'est-ce pas, du poussière. Parce que si on dit que le corps de l'être humain est du poussière, et quand tu meurs, c'est fini, nous disons non, ce n'est pas fini parce qu'il y a, n'est-ce pas, l'âme qui existe. Est-ce que nous voulons dire par là que le jour de la résurrection, c'est l'âme seulement? Ce n'est pas ce que nous voulons dire, mais nous devons supposer que quelqu'un nous dise que le corps que voici deviendra, n'est-ce pas, poussière, comme on le dit que tu as commencé poussière, tu finiras, n'est-ce pas, poussière. Nous disons non, tu n'as pas forcément commencé poussière, mais tu as commencé en tant que poussière, n'est-ce pas, et âme. Et lorsque tu meurs, c'est une séparation entre l'âme, n'est-ce pas, et le corps. Le jour de la résurrection, l'âme serait, n'est-ce pas, interrogée. Donc, pour ne pas que quelqu'un nous dise que non, le corps, n'est-ce pas, n'a pas d'utilité. Maintenant, le jour de la résurrection, c'est l'âme seulement qui serait jugée, c'est le corps. Cela a fait, n'est-ce pas, a causé beaucoup de discussions entre les savants. Donc, ce n'est pas l'objet, n'est-ce pas, de notre sujet. La question de Al-Ma'ad, qu'on appelle la résurrection, se traite dans Al-Aqaïd, qui est, n'est-ce pas, les croyances que c'est possible que si vous retournez dans les livres de Al-Aqaïd, vous allez voir traiter cela. Donc, de manière générale, nous disons ceci, le mot akhlaq est le pluriel du mot khulq, qui signifie disposition. La disposition est cette faculté qu'on appelle malaka. Faculté, c'est en arabe, on appelle ça malaka. De l'âme qui constitue la source de toutes les activités que l'homme accomplit spontanément et sans y réfléchir. Alors, quand on parle d'al-akhlaq, c'est quelque chose que l'être humain a en lui comme une faculté, de telle sorte que celui-ci manifeste ses facultés-là spontanément sans réfléchir. Donc ça devient en toi, n'est-ce pas, un malaka, comme on le dit, une faculté. Donc, faculté qu'on appelle malaka est quoi? Est un exercice et la pratique répétitive et qu'il est difficile de détruire. Donc l'être humain, quand on dit que celui-ci a un bon comportement, a un mauvais comportement, ce n'est pas quand il fait quelque chose une fois et c'est terminé qu'on dira de lui qu'il a un mauvais comportement. Un mauvais comportement ou bien un bon comportement, c'est quand ces habitudes, ça deviendra, n'est-ce pas, une habitude, n'est-ce pas, en lui, comme on le dit, que l'habitude est une deuxième nature, sans cela qu'on dit qu'il a un mauvais comportement. Donc, cela revient en lui une faculté, une habitude de telle sorte qu'il ne peut pas, n'est-ce pas, délaisser. Alors, quand cela devient, n'est-ce pas, une habitude, on appelle ça, n'est-ce pas, malaka, faculté, de telle sorte que celui-ci pose l'acte sans réfléchir, ça vient spontanément. Donc voilà en fait comment est-ce que les savants donnent la définition, n'est-ce pas, de al-akhlaq. Maintenant, lorsque nous revenons au hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour voir quels sont la place du bon, n'est-ce pas, et du mauvais comportement. Donc, je reprends pour dire que quand on parle de comportement, ce n'est pas forcément bon, car il y a des mauvais comportements également. Donc, c'est l'action que l'être humain pose spontanément, sans y réfléchir, qu'on appelle akhlak. Maintenant, cela pourrait être positif comme négatif. Alors, le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, parlant du bon comportement, dit ceci: Inna akmal al mu'minina imanan ahsanuhum khulqa. Il dit, celui-là même qui a plus de croyance, le plus parfait des croyants, est celui-là même qui a un bon comportement. Donc vous voyez, il y a un lien entre le comportement de l'être humain, n'est-ce pas, et sa foi. Donc, celui-là même qui est plus parfait en termes de croyance, et c'est celui-là même qui aurait, n'est-ce pas, un bon comportement. Donc, c'est pour dire que le bon comportement parachève, n'est-ce pas, la croyance de l'être humain. Et le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui est le maître de l'humanité, nous dit ceci: Bouistou le outam mima makarimal akhlaq. Il dit, j'ai été envoyé pour parachever, n'est-ce pas, l'institution des bonnes, n'est-ce pas, manières. Et parlant du bon comportement également, on posait la question au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, ayul a'mal afdal. On lui posa la question de savoir quelle est l'œuvre la plus bonne. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit husnul khulq. Concernant, n'est-ce pas, le mauvais comportement, comme le temps, n'est-ce pas, ne nous permet pas, قال صلى الله عليه وسلم أبى الله عز وجل لسائب الخلق سيب التوبة. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala refuse d'octroyer le repentir à celui-là même qui a en fait un mauvais comportement. Qui l'a kaif? On posa la question au saint prophète de savoir pourquoi, n'est-ce pas, cela, ya Rasulallah. Wa kaif zalika ya Rasulallah? قال إذا تاب من ذنب وقع في ذنب أعظم منه. Il dit, car c'est lui-là même, quand il se repent, s'il se repentira d'un péché, tombe également dans un péché plus colossal, n'est-ce pas, ou plus géant, ou plus grand que, n'est-ce pas, le précédent. وقال صادق عليه السلام إن سوء الخلق la yufsidu l'iman kama yufsidu l'khalla l'asala. Il dit, le mauvais comportement détruit, n'est-ce pas, la croyance, comme détruit, n'est-ce pas, le vinaigre et le miel. Car concernant, n'est-ce pas, la croyance, nous avons dit que celui-là même le plus parfait en termes de croyance, c'est celui qui aurait, n'est-ce pas, un bon comportement. Donc, ça veut dire qu'il y a un lien entre le comportement de l'être humain et, n'est-ce pas, la foi. De cette même manière, quand tu as un mauvais comportement, le mauvais comportement détruit, n'est-ce pas, ta foi. Et le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, celui qui a un mauvais comportement, n'est-ce pas, se fait du tort, n'est-ce pas, lui-même. Donc, voilà, en fait, en grosso modo, ce que nous pouvons dire concernant, n'est-ce pas, les notions générales, n'est-ce pas, de l'éthique. Dans les émissions à venir, nous allons essayer, tant bien que mal, tant bien, de rentrer, n'est-ce pas, dans le vif, n'est-ce pas, du sujet, traiter en long et en large la question, n'est-ce pas, de l'éthique, son utilité et, n'est-ce pas, les rapports qu'il y a entre l'être humain et ses semblables. Donc, sur ce, nous allons prendre congé de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.